Deux colonnes à la une. Colonne à la une, les francs-maçons sur Radio DTC.
Bonsoir et bienvenue dans Deux colonnes à une sur Radio DTC. Excusez-nous, c'est quelques petites minutes de retard, mais l'affluence du vendredi font que BP, parmi d'autres, est quelque peu retardé, mais ils arriveront. Moi c'est Rico, donc je suis en profane, excusez-moi de vous déranger. Je suis avec le frère Symphonie qui est là aussi. Ça va ?
Bonsoir.
Voilà, donc en attendant, on va vous proposer un petit peu de musique pour commencer cette émission franc-maçonnerie et musique. Le groupe s'appelle Swan, la chanson s'appelle The Doctor Dances, et le refrain vous apportera la lumière.
You don't know what it's like to really see the doctor dance. Girls march and take it to the sky,
to the sky above and away.
Always long for journey through wonderlands. Slay the beast and get the girl, then home again
and back again.
And the clock is ticking and it's ticking down. Well, the clock is ticking and it's ticking. Just to make it feel better. Down comes the rain right on cue.
Here comes the rain again.
And the clock is ticking and it's ticking around. And the clock is ticking and it's ticking down.
I saw the light.
Everything is alright. I saw the light.
Bonsoir, ici BP sur Radio DTC pour l'émission Deux colonnes à la une spéciale franc-maçonnerie et musique. Nous sommes en effectif réduit puisque suite à un mouvement de grève syndicale, les animateurs de Colonne à la Une demandent une augmentation.
Voilà, on a remarqué, c'est toujours les mecs du même bord qui font les grèves.
Bien, alors ce soir, en fait, non, nous avons une épidémie de, je ne sais pas si c'est de gastro, de je ne sais quoi, mais il y a beaucoup de malades ce soir, notamment un des invités qui est au fond de son lit avec 39,5 de fièvre. Alors donc, mais ce n'est pas grave, il n'était pas essentiel, n'est-ce pas Guillaume? Alors, ce soir, nous recevons donc Yakovos Papas, qui dirige, si j'ai bien compris, l'ensemble Alma 6. Et ben, tu vas nous présenter un peu ce que tu vas faire, puisque je crois que tu as un grand événement en plus prévu en 2015.
Oui, c'est, oui, je pense un grand événement.
Oui.
Je pense que c'est la première fois que la musique maçonnique va être présentée dans un lieu autre que, qu'un lieu purement maçonnique.
Sur une péniche, je crois.
Dans la péniche opéra, donc. C'est tout un programme. Et qui est quand même une scène nationale.
D'accord.
C'est très important, ça... C'est plus que symbolique.
Oui.
Donc, non seulement en un lieu dit profane, mais en plus, c'est national.
D'accord. Et parle-nous un peu donc de l'ensemble Alma 6.
L'ensemble Alma 6, c'est qui existe depuis quelques années. C'est spécialiste, bon, surtout de la musique française. Et en disant que l'essentiel de l'ensemble, c'est la voix, qui est. On a toujours dit jusqu'au début du 19e siècle, c'était quand même le modèle, le début et la fin de l'expression musicale.
Donc vous êtes des baroqueux alors, jusqu'au 19e siècle.
Voilà, n'est-ce pas?
Oui.
Et voilà, donc c'est autour d'un noyau de chanteurs très, très fidèles que nous faisons des projets, si possible, inattendus. Parce que la routine, c'est qui m'intéresse énormément. Et voilà, donc ce projet-là qui me tient à cœur depuis longtemps, en fait, je l'avais proposé presque en guise de boutade à Mireille Laroche, qui est quand même aussi une personne assez inattendue. Il a dit, chiche, on le fait.
D'accord. Et toi, tu es claveciniste de formation?
Oui, oui.
Oui. Et comme Jacobs ou d'autres, tu es passé à la voix. Ou il y en a d'autres qui sont passés à la voix, au clavecin, enfin. Ça bouge beaucoup dans le monde du baroque.
Oui, mais de toute façon, c'est l'idée qu'on se fait au 19e d'une spécialisation est absolument absurde pour la musique d'avant. Enfin, jusqu'au début du 19e siècle. On ne peut pas. C'est une chose qui n'existe pas. D'ailleurs, la plupart des chanteurs qui travaillent avec moi sont des instrumentistes à l'origine. Ça va, donc ça donne quand même des artistes qui lisent déjà très très bien la musique. Ils ont des vues sur la musique, qu'ils ont une culture. On ne peut pas faire autrement avec cette musique-là.
Et alors, pourquoi franc-maçonnerie et musique? Alors, pourquoi des auteurs francs-maçons? Puisqu'il y a Nodon, il y a Clérambeau au programme, Rameau.
Bah, d'abord la réponse est très bête, la musique est sublime.
Oui.
Voilà, bon, déjà, c'est. On peut partir en disant, voilà. Deux, bon, par exemple, Clérambeau, je trouve ça très crocasse. L'ancien maître de la chapelle de la Bigote maintenant, qui termine en franc-maçon, c'est formidable.
Oui.
Et qui fait sa dernière œuvre, espèce de bras d'honneur à tout ce qu'il a vécu sous Louis XIV, en écrivant les francs-maçons.
Oui.
Déjà, c'est quand même pas mal. Il est quand même très âgé. Il a 70 ans passés quand il écrit ça. Le déluge de Girouste. Bon, il y a deux raisons pour ça, cela. D'abord, Girouste est génial. Il traîne évidemment la tare, comme beaucoup d'autres de son époque, qui est un compositeur de fin de Louis XVI et à l'époque révolutionnaire. Donc ça, c'est vrai que c'est une tâche épouvantable pour beaucoup de monde. Dernier maître de la Chapelle Royale, grand franc-maçon, membre de la loge de Versailles. Et bon, lui, il n'est presque pas de mérite pour sa musique puisqu'il avait tout l'orchestre de la Chapelle Royale dans la loge. Bon, là, c'était facile. Il partait avec les copains et il faisait des musiques sublimes. Donc, il ne nous reste pas grand-chose. Il ne nous reste que le déluge. Que je crois, enfin, si je ne me trompe pas, c'est la seule musique française pour une tournée funèbre.
D'accord.
Entière. Mmh. Et bon, Rameau, on ne va pas présenter Rameau quand même, mais ce qui est intéressant avec Rameau, Bon, la question reste s'il est franc-maçon ou pas, c'est une chose.
Oui, mais, on en parlera plus tard.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde autour de lui était.
Un peu comme Beethoven, d'ailleurs. Tous les amis de Beethoven, quasiment, étaient tous en entourage.
Donc,
à
force, on est contaminé, quand même.
Oui, je pense.
Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons présenter des extraits de Zoroastre, mais la première version.
D'accord.
Jamais présentée de nos jours. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que après le premier enregistrement par les Koiken et Leonhardt des années 70, il s'avait déclaré, de façon assez péremptoire d'ailleurs, que puisqu'il avait une seconde version, ça devait être, aux yeux du compositeur, la meilleure version. C'est comme stupide. Rameau, il a passé sa vie à retravailler ses œuvres. Il y a toujours au moins deux versions pour les grandes œuvres. Il y a deux pour Hippolyte, il y a deux pour Castor, il y a deux pour Zoras, etc. Donc oui, ça n'existe pas. Mais ce qui est...
Souvent, il y avait une version censurée, non censurée, parce que, par exemple, on prend C'est mêlé de Handel, il y a la version censurée où il n'y a pas Cupidon qui décrit comment faire l'amour bien à une femme, entre Zeus et C'est mêlé. Donc, je pense que c'est un peu du même tonneau.
Et là, c'est plus grave, parce que quand il se présente Zoroastre, la première version, il a eu toujours les critiques très acerbes d'époque qui ont traité l'opéra de cabalistique, pas moins que ça. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que la première version n'a pas d'amour.
D'accord.
C'est très secondaire, c'est déjà inattendu. On est quand même au milieu du XVIIIe siècle, on est sous Louis XV, sans amour, opéra, Et on ne parle que du dieu de la lumière, de la paix, de l'amour. Ce qui est quand même quelque peu violent.
Bien. Bah, donc, c'est avec... Alors, il a lieu quand
Le 14 avril prochain.
14 avril, c'est quel jour?
Et c'est un mardi, et il faut faire vite parce que la péniche, c'est pas l'opéra comique.
Oui.
Il y a que 100 places.
Ah oui, d'accord.
Et ça commence à se remplir. Peut-être on fera une seconde si ça, il y a trop de monde, enfin trop de monde, il y a beaucoup de monde, on va dire, le 15, mais rien n'est sûr. Et on a ce problème-là, la péniche, si il y a un problème, c'est sa jauge.
D'accord. Bon, on va faire une pause musicale. On va entendre justement deux morceaux extraits de deux disques de l'ensemble Almacis. Grégoire, une chanson qui va ravir les francs-maçons, puisque c'est dans un obscur caveau que ça se passe. Donc, on a soif. Et puis, quelque chose, un Kyrie eleison plus sacré, on va dire. Et puis après, nous reprendrons donc la franc-maçonnerie et la musique, en démarrant avec le début, Ordo ab Chaos.
Dans mon obscur caveau, je vois Bacchus descendre. Il va parler, taisons-nous, pour l'entendre. Après tant de frayeurs, rassure tes esprits. Si j'ai laissé périr le doux jus de la vigne par une trahison insigne, au milieu d'un festin, l'amour m'avait surpris. Tout entier occupé d'une beauté charmante, j'avais oublié les buveurs. Mais je viens remplir ton attente et j'éteins enfin mes ardeurs.
Bien, deux colonnes à la une sur Radio DTC, BP en direct, BP le seul survivant avec la régie, et nous avons le frère Symphonie qui est venu nous rejoindre. ou qui est... Enfin bon, bref. Donc nous sommes en direct avec Yakovos Papas. Et nous allons donc commencer par, je dirais, le début de la franc-maçonnerie et la musique, avant même, puisqu'on sait que la devise de la franc-maçonnerie, c'est Ordo ab Chaos. Enfin, c'est une des devises. Donc, au début, il n'y avait rien. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le premier homme qui a eu l'idée de faire la musique, ou la première femme. C'est, voilà. Et, comment dire ? Il y a eu un moment Pythagore qui circulait tranquillement dans la rue, qui circulait tranquillement, qui se promenait dans une rue, et qui a entendu un forgeron frapper sur des plaques de cuivre. Donc il a vu que le forgeron en frappant émettait des sons différents suivant la force, la manière dont il frappait, donc il lui a refait essayer. Et du coup, c'est la première gamme, je crois, qui est en 8 notes de Pythagore. Et Pythagore, en fait, on a fait l'harmonie des sphères, et je crois que la distance entre chaque note correspond à la distance entre chaque planète qui est connue à l'époque du système solaire, selon Pythagore. Et qu'en fait, l'harmonie des sphères, ce serait le concept que tout se meut de manière harmonieuse, en émettant un son harmonieux, mais que l'homme d'aujourd'hui, à l'époque de Pythagore, n'entend plus. Donc, il y a d'ailleurs un opéra, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un opéra, c'est de Indemis, c'est l'harmonie des sphères. Et donc, la musique est née. Et comment elle est apparue au début dans les rituels quelle est l'importance de la musique dans le rituel, en fait, avant de voir un peu l'histoire de la musique et des francs-maçons?
En général.
En général.
Bah, voilà le vaste projet de la soirée.
Elle était rituelique au début, ouais. La musique.
Mais je pense que c'est une des questions que les anthropologues parlaient des rites en général. Je pense que tous ceux que nous connaissons maintenant dans sa partie la plus profane, dont la musique fait partie, avaient une fonction parfaitement précise. Fonctionnel et c'est à partir de là qu'on a commencé en plus à avoir la musique plus profane en faisant des chansons ou autres musiques de la vie de tous les jours. Je pense que l'idée de l'harmonie des sphères qui fait référence, enfin fait référence, qui le correspondant, c'est qu'ils disent dans les écrits hindous, en parlant que le monde est né de la vibration. Ce qui est très très intéressant, ça revient à ça. En fait, le monde est créé par le son.
Cela dit, le Big Bang, c'est un grand son.
C'est un effet que redire cette idée-là, en disant d'ailleurs que le même son peut détruire. On le sait d'ailleurs un peu à quel point c'est vrai, quand on sait que, n'est-ce pas, l'armée, quand elle passe sur un pont, est interdiction de marcher sous le pas.
Oui.
On connaît ce que ça provoque.
Oui, ben on a vu avec ces fameuses images du pont, là, voilà. Avec la résonance.
C'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant, la puissance du son organisé. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le mot « cosmos » en grec, ça ne veut pas dire autre chose que à la fois l'ordre, les bijoux.
Oui. Bah, la cosmétique, c'est l'harmonie du visage.
C'est l'harmonie. Ça veut dire, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui est ordonné.
Oui, ça vient de Kogai.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on fait l'étymologie de certains termes qui paraissent justement aussi profanes, banals, etc. C'est ça, en fait. Il parle d'harmonie.
Oui. Et je crois que les sphères, en fait, c'est l'opposition au mot planète, parce que la sphère, en fait, n'était pas quelque chose d'errant. Alors que la planète, à l'origine, c'est quelque chose qui erre dans le cosmos.
Oui. Et bah oui, c'est le son, c'est ça.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire un plan, la racine en grec, c'est ça, ça. C'est quelque chose qui est la même racine que naviguer. Donc, histoire aussi avec les eaux, n'est-ce pas?
Oui, je pense à Ulysse et le chant des sirènes.
Qui est, n'est-ce pas, les eaux qui représentent toute la force... non ordonné justement, et on peut marcher dessus.
Oui.
D'ailleurs, c'est le vrai, en tout cas pour moi, c'est le vrai sens quand tu parles que Jésus a marché sur les eaux. Évidemment, il faisait pas du ski nautique.
Non.
Il marchait sur la ils gouvernaient la, du point de vue des mystiques d'époque, gouvernaient en fait les forces non ordonnées.
D'accord. Oui, ben justement, on va, avant la termine musicale, je vais vous lire, je vais vous lire un extrait du Songe de Scipion, où justement Scipion, en fait, c'est tiré de l'ouvrage de Macrobe, qui s'intitule Le Songe de Scipion, qui est considéré d'ailleurs comme le premier ouvrage psychologique au monde, puisque c'est l'interprétation d'un rêve. Et on le retrouve, ce texte, mystérieusement, puisqu'il manque les fragments d'avant et les fragments d'après, dans le de la République de Cicéron. Mozart en a fait un opéra, et en fait, c'est Scipion qui raconte lors d'un camp que, à la veillée, qu'en fait, il a fait un rêve étrange. Il s'est retrouvé sur une planète, visiblement la Lune. Il voyait la Terre, il a vu son père biologique. Il y avait son père biologique et son père adoptif qui l'attendaient. C'était courant à l'époque à Rome. Et qui lui demande... Alors, dans la version de Cicéron, c'est de choisir entre la gloire et la République. Bon, Cicéron étant un républicain, d'ailleurs, qui s'est farouchement opposé à César... etc. Il a donc il vantait les mérites de la République, mais dans l'opéra de Mozart, ça devient une opposition entre la constance et la fortune. Donc il y a ces mots qui sont remarquables, je vais les lire rapidement. La constance dit, donc Scipion se demande où il est. La constance lui répond: non, l'Afrique est fort loin de nous, tu es dans l'immense temple du ciel. La fortune: ne le reconnais-tu pas aux nombreuses étoiles scintillantes qui resplendissent autour de toi, à l'harmonie insolite des sphères en mouvement que perçoit ton oreille, au globe terrestre aussi brillant qu'un saphir que tu vois entraîné dans sa course? Scipion répond: et quelle est parmi ces sphères, ô déesse, celle qui produit une si mélodieuse harmonie? Donc on vient à l'harmonie des sphères. La constance: celle-ci provient de leur inégalité proportionnée en mouvement et en mesure. Elles se heurtent les unes aux autres dans leur rotation. Chacune d'elles rend un son distinct de l'autre, et de toutes à la fois naît une consonance. Donc on est en plein dans ce qu'on disait. Bien différentes sont les cordes d'une cithare, et pourtant, lorsque la main les a accordées comme il convient à l'oreille, dans l'aigu et dans le grave, elles donnent, une fois pincées, une douce harmonie. Ce nœud admirable, cette raison mystérieuse qui accorde les dissemblances, s'appelle proportion, ordre et norme universelle de toutes choses créées. On n'est pas loin de la proportion d'or, du nombre d'or. La proportion d'or. C'est une étincelle du savoir supérieur et impénétrable que le sage de Samos a caché dans ses nombres. Scipion: mais pourquoi une harmonie si sublime ne parvient-elle pas jusqu'à nous? Pourquoi ceux qui vivent sur Terre ne l'aperçoivent-ils pas? La constance: elle dépasse le pouvoir de mon sens. Donc on va écouter justement cet air, mais avant, on va écouter l'hymne au soleil, qui est une reconstitution qui a été faite à partir de, je dirais, de textes, de ce que la musique que pouvaient faire les Grecs antiques.
Thank you.
triste et soit achevé.
Nous sommes toujours sur Radio DTC, dans le cadre de l'émission Deux colonnes à la une, consacrée à la franc-maçonnerie et à la musique. Nous allons donc, après avoir vu pourquoi de la musique dans le rituel, dans les rituels en général, donc on peut considérer dans le rituel maçonnique notamment, avoir vu cette recherche d'harmonie, puisque dans les loges on recherche aussi l'harmonie. On va attaquer, je dirais, est-ce qu'on peut appeler ça l'âge d'or de la musique pour les francs-maçons avec le XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières?
Ah oui, je pense. Déjà, même du point de vue, je ne devrais pas dire comme ça, mais du point de vue quantitatif, c'est évident. De toute façon, en France, si on pose la question qui était franc-maçon parmi les musiciens, il ne faut pas la poser, il faut dire qu'ils n'étaient pas. Ils étaient tous.
Alors, le premier d'entre eux, est-ce que c'était pas Hind, finalement?
Non, je pense que tout le monde. Tout le monde. Et quand on fait le décompte, il y a très peu qui sont dehors. Hind est venu en France pour raison très simple, comme Mozart, comme les autres. C'est que c'était connu, on considérait comme des musiciens comme des êtres humains en France, c'est tout, qui est pas comme les serpillères, que c'était le cas en Autriche.
Oui, bon, c'est vrai qu'on a tous en tête les relations entre.
Mais c'est vrai.
C'était quoi, l'évêque de Salzbourg et Mozart.
Oui, mais c'était pas une exception, c'était ça. Alors qu'en France,
Bach aussi, c'est vrai. Voilà. Bach était traité, il était quoi, il était Kapellmeister, Bach.
C'était alors qu'en France, les artistes en général, les musiciens étaient comme extrêmement considérés. Ça, c'était un fait. Et ils étaient même bien payés. D'ailleurs, je pense que Frère Hind, je pense qu'il n'a jamais été aussi bien payé qu'à Paris. Peut-être un peu à Londres, parce que c'est une grande ville maçonne, mais c'était à Paris.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que Handel, qui n'était pas maçon à ma connaissance, lui est mort à Londres, puisqu'il y a vécu. D'ailleurs, on peut aller visiter sa maison, qui est à côté de New Bond Street. Et justement, le bureau de la fondation qui gère la maison de Hind. Ah, il a son bureau dans l'immeuble voisin, mais on peut y communiquer par un petit escalier interne, et c'est la pièce où Jimi Hendrix est mort. Ah. Donc, ils sont morts à quelques siècles d'écart, mais à 20 mètres d'écart à peine.
Et ben voilà, certains lieux, n'est-ce pas? Voilà.
Et donc, pourquoi Hind, on va attaquer l'esprit des Lumières par, je dirais donc, ceux qui sont les plus absolus, qui exercent le pouvoir le plus absolu sur les musiciens, puisque. J'ai lu dans certains ouvrages qu'en fait, la franc-maçonnerie a deux grands courants à l'époque, le courant ésotérique et le courant qui veut appliquer la philosophie des Lumières. Donc, on voit d'ailleurs l'orientation dans les musiques. Souvent, c'est mélangé. Hein, aussi, faut pas se leurrer. On dirait que dans les pays où vraiment il y a un absolutisme très dur, très religieux, parce que c'est quand même des pays religieux, hein, encore aujourd'hui, en Allemagne, vous devez indiquer sur votre papier d'identité quelle est votre religion. Il y a encore un impôt religieux. Donc à l'époque où ce n'est pas un État, mais un ensemble d'États en Allemagne, où bon, il y a l'Autriche, qui est l'Empire austro-hongrois, mais ils exercent, comme tu l'as dit, un pouvoir sur leurs musiciens. Et on a l'impression qu'en fait, plus le pouvoir est fort, plus il y a un besoin d'ouverture et de recherche de la lumière, je dirais, vers la lumière vers l'esprit des lumières. Et Hind, par exemple, en est un cas typique. Donc, est-ce qu'on peut un peu s'attarder sur Hind, puisque c'est le parrain de Mozart aussi?
Oui. Bon, je pense que Hind, c'est un peu comme Goldon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans ses mémoires: je peux dire maintenant en vieillesse que j'ai eu une vie merveilleuse. Je pense qu'Haydn, il a une étoile. Je pense que.
Cela dit, il a écrit Le Monde de la Lune. Hein,
oui, n'est-ce pas? C'est pas par hasard, mais c'est très intéressant. Oui. Haydn, ça fait partie des quelques personnes qui ont eu une belle étoile et que tous ses engagements sont bien passés. De toute façon, ça, il n'a jamais eu de s'inquiéter à ce niveau-là, plus que. Pourtant, c'était quand même quelqu'un qui est extrêmement connu à l'époque. Je pense que Hind, c'est un bon exemple de ce que ça aurait dû être pour beaucoup de monde au XVIIIe siècle. Ça veut dire faire très bien son métier, avoir du talent, avoir un engagement très honnête et que ce soit bien vécu par tout le monde. Parce que je ne pense pas que c'était un mystère pour personne, en tout cas à Paris, qui était Hind. Non, Hind, je pense qu'on peut dire que souhaiter d'avoir une vie comme Hind,
oui. Un peu. C'est vrai que en opposition à Mozart, c'est vrai que.
C'est... Ou à pauvre Saint-Georges, parce que pauvre Saint-Georges, c'est un très grand compositeur. Le fait d'avoir une couleur de point quelque peu différente
oui,
des autres,
noir, comme on l'a senti
voilà,
il y a eu un film, je
c'est
crois.
Vrai, sur, c'est vrai que ça lui a pas porté beaucoup de bonheur. Pourtant, c'est un homme qui était non seulement excellent musicien, qui était apparemment très bel homme, qui était très intelligent et tout. Il a souffert toute sa vie dans le même cas. Donc c'est.
Mais Hind n'a jamais souffert du fait d'être.
Je pense pas qu'il arrivait quand même avec une truelle à la main pour diriger. Je pense pas quand même. Il faisait pas quand même en provoquant, mais c'était pas l'esprit d'époque. Quand même dans un pays qui comme assez épouvantable comme l'Autriche, du point de vue religieux, je pense pas qu'il a fait de la provocation non plus.
Non. Mais comment on explique qu'il y ait toute cette flambée de musiciens francs-maçons, notamment dans des pays comme l'Autriche ou les États allemands
Je pense que c'était bien dit tout à l'heure. Je pense que c'était le seul endroit où on pouvait respirer et se sentir moins asphyxié qu'ailleurs. Bon, déjà parce que le problème social avec les États était beaucoup plus brutal dans un pays comme l'Autriche, parce qu'en France, c'est pas vrai que c'est brutal. C'était devenu ridicule à la fin de Louis XVI, certes, mais c'était pas brutal.
Oui, c'est vrai que si on lit le voyage à Lübeck, cet ouvrage, je sais plus qui l'a écrit, mais je crois que c'est un grand organiste.
Lübeck, c'est un merveilleux compositeur, c'était en plus.
Et puis il va rencontrer Buxtehude. Qui, en fait, on dit, a inspiré Bach, puisque quand il est revenu, il était parti pour un mois. Mais Bach, il avait dû demander l'autorisation.
C'est hallucinant. C'est hallucinant.
Alors qu'en fait, c'était pour son, pour son job. Quoi.
Voilà, c'est quand même, quand on parle de ça, ça donne un peu le ton général des pays germaniques d'époque. C'est quand même un peu mieux en France.
Oui, c'est vrai que quand on voit ce film qui retrace les rapports entre le roi danse, entre Louis XIV et Lully, on voit que Lully, c'est quand même une diva et que Louis XIV lui passe, pourtant qu'il n'était pas réputé pour être commode, puisque c'est le symbole du roi absolu, de l'absolutisme en France. il lui laissait quand même, il lui passait beaucoup de caprices.
Ah ben c'est le cas qui illustre le sort de l'artiste en France, bizarrement, sous l'Ancien Régime. C'est que Louis XIV, que si on soulevait, je pense, un peu plus les cils qu'il fallait, on avait quand même quelques préoccupations le lendemain. Il avait quelqu'un comme Lully, qui était quand même, à part que c'est un compositeur génial, c'était quand même, pour le goût d'époque, c'était un dépravé quand même.
Oui, parce qu'il était bisexuel, il partouzait.
Quand même, on sait qu'une dernière... Ça, il a eu du mal au Louis XIV, il avait comme un garçon de 14 ans. Et que la famille a failli le piétiner. La maison Lully, on le connaît très bien, c'est rue de Petit-Champ et rue Sainte-Anne. C'est un bâtiment qui est sublime. Donc il a fallu quand même que la carrosse royale, ça fait comme un scandale, avec des gendarmes arrivent et ils le prennent et il part sous les huées de la foule. Donc et même ça, bon, c'était difficile, mais il lui a pardonné à la fin pour dire à quel point il estimait quelqu'un comme Lully. Et c'est le cas aussi pour...
Il est né où, Lully? Près de Naples ou de Florence?
Florence. Il est florentin, n'est-ce pas?
Oui, il était adopté d'ailleurs par... Il a été adopté par un prêtre.
Voilà, c'est ça. Mais il est venu très tôt. Il avait 9 ans.
Et une super biographie de Lagorce chez Fayard dans la collection sur les Médicins sur Lully.
Et Lully, à mon avis, bon, avec les si on ne veut pas l'histoire, mais Lully, sous Louis XV, il serait franc-maçon. C'était la tête de la personne qui serait le premier d'être franc-maçon, c'est sûr.
Alors, est-ce que c'est pas dû au fait aussi que, bon, on fait une petite digression, que Louis XIV voyait la musique comme un moyen politique et qu'il avait besoin de Lully pour enclencher, je dirais, la musique en France, parce que ce qu'il y avait avant, on le voit bien dans Le Roi Danse, c'était un peu poussiéreux en France.
C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais ça exclut pas du tout le deuxième volet. C'est vrai que Louis XIV, il avait, ben d'ailleurs, la preuve que c'est une immense personnalité, c'est qu'on souffre toujours des dégâts qu'il a fait dans le côté négatif. Le pays n'a jamais...
Oui, ça, les travaux du château de Versailles nous ont, et les guerres nous ont coûté cher.
Et même l'esprit centralisateur, ça c'est tout celui...
Oui, l'État, tout, c'est moi, bon, il l'a pas dit, mais enfin, lui a attribué.
C'est tout à fait ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a ouvert les portes aux arts comme on n'avait jamais vu, même sous les Médicis. Et on arrive à Louis XV, suite de ça, Louis XV qui s'en fout de la musique, il n'aime pas la musique, mais il a l'immense marquise de Pompadour, notre plus grand ministre de l'économie.
On lui doit même des coupes de champagne.
N'est-ce pas?
Qui ont été faites d'après ses seins.
Idem. Et qui était d'abord une excellente musicienne elle-même, et qu'elle a protégé tout le monde, mais tout le monde, y compris, c'est pour ça que je dis c'est une immense ministre de
la culture. Ceux qui ont fait des pamphlets contre elle.
Non seulement, mais y compris des artistes qu'elle n'aimait pas. Parce que son devoir, c'est de protéger. Et donc, elle n'aimait pas Rameau.
Oui, bah, c'était la querelle des bouffons.
Et pourtant, elle passait commande.
Mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais en revanche, est-ce que aussi, pour tous ces musiciens, il y a quand même une rébellion à être franc-maçon? C'est un peu... La musique, les arts sont déjà subversifs, puisque dans la peinture religieuse, on les faisait passer des messages. Quand on voit un tableau du Caravage, bon, il y a des messages qui sont parfaitement clairs, ou d'autres. Donc il y a déjà un aspect exotérique, un aspect ésotérique dans ces œuvres-là. Mais les musiciens, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt aussi à être francs-maçons pour, par exemple, pouvoir, comme Casanova, se promener dans toute l'Europe? Parce que la franc-maçonnerie, on est bien accueillis partout.
Absolument. Et non seulement l'Europe, dans leur propre pays déjà.
Oui.
Il est évident. Mais je pense qu'à Haydn, c'était le cas. C'était très, 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 très clairement.
Mais par exemple, le père de Mozart, je ne sais pas s'il était franc-maçon, Léopold.
Je ne sais pas.
Il a des souvenirs un peu mitigés.
Mais je pense que ça semble très probable, de toute façon. Parce que... Tout le monde l'était quasiment, donc...
Alors, comment Haydn en est venu à parrainer Mozart?
Je ne connais pas l'histoire en soi, je ne sais pas ce qu'on saura jamais, mais je pense que Haydn, qui c'est toujours un homme très honnête, c'est qui très rare, surtout de nos jours, n'est-ce pas? Et il appréciait tellement le garçon.
Oui, il avait reconnu le génie.
Réellement. Donc, il voulait puisque... Il était franc-maçon, et je pense qu'il était franc-maçon parce qu'il trouvait que c'était bien.
Oui.
Et il voulait que ce soit bien pour le petit aussi.
Parce que Mozart a été peu de temps, je crois, franc-maçon. puisqu'il est mort assez rapidement, mais je crois que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. C'était un frère très...
Bah, du coup, mais Mozart, quand il arrivait la deuxième fois, quand il a voyagé la prochaine fois qu'il va à l'étranger, il a vu, je pense, la différence. C'est évident. Mais je pense que l'histoire de Heine, c'est une histoire d'honnêteté, tout simplement.
D'ailleurs, je renvoie à l'ouvrage du couple Massin, justement dans cette collection Fayard sur Mozart, où il y a aussi, ils analysent des morceaux de partition, ou au livret sur les opéras, où on parle de ça. Mais Mozart, alors pourquoi Mozart, dès qu'on parle de musique franc-maçonne, on parle de Mozart? Parce que Heine, il a quand même fait une musique qui était bien imprégnée. Ses symphonies de Paris, ou ses symphonies londoniennes, il y a quand même des aspects qui sont bien franc-maçons.
Oui, mais je pense que là on va...
Ou dans la création, même.
Bah là, la création, oui, la création... Très clairement.
Oui. Et pourquoi Mozart, c'est la référence?
Oh, je pense à le côté un peu qu'on aime toujours. C'est un peu le, là, c'est un autre niveau. C'est comme avec Marilyn ou James Dean. Quand on meurt jeune, avec talentueux et beau, c'est quand même plus alléchant que quand on meurt comme Haydn.
Et puis il y a la flûte enchantée, voilà, qui est censée être l'opéra maçonnique par excellence. Alors, ce que curieusement, d'ailleurs, dans sa version Jacobs, dit qu'en fait, ce n'est pas un opéra maçonnique. Il le dit, dans le DVD d'accompagnement.
Et il explique pourquoi?
Oui, bah, il dit que pour lui, en fait, c'est une fausse idée, etc. Je pense qu'il se trompe complètement.
Parce que... par vous le débat, qu'est-ce qu'ils disent les gens, ça... Mais
il faut pas tomber aussi dans le Christian Jacques sur la flûte enchantée.
Absolument.
J'ai lu, mais bon,
que Dieu le préserve, comme on dit.
Voilà.
Mais il y a quand même certaines choses qui trompent pas.
Oui.
On prend pas un sujet, sauf si on considère que la personne est complètement abrutie. Moi, je veux bien. Oui. Mais si on considère que la personne n'est pas abrutie, il a quand même lu le texte, et il a choisi ce texte-là, parce qu'il a choisi ce texte-là, et ce texte-là n'est pas innocent. Je veux dire, c'est comme le Horace de Rameau.
Jacobs. Non, Jacobs, il est sincère. Alors, je pense que bon, l'ouvrage de Christian Jacques, alors que curieusement, son roman biographique sur Mozart est meilleur. Je suis désolé, La Flûte Enchantée, je recommande pas cet ouvrage, parce que pouvoir coller du ternaire n'importe où, du 4, du 3, bon, on peut tous le faire.
Bien sûr, mais je veux dire, le sujet est très intéressant. L'idée de parler, parce que de toute façon, Mozart, c'est pas le premier. Le premier qui l'a fait, c'est Rameau. Rameau et Cahuzac. Donc, le texte qui parle, surtout à cette période-là, qui parle d'un tandem du mal et du bien, du noir et du blanc, c'est un sujet qui n'est pas innocent, déjà. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte de Jacob, je pense que je ne le lirai pas d'ailleurs, mais parce que je sens qu'est-ce qui se passe, moi je soupçonne...
Il n'est pas belliqueux.
Oui, non, mais c'est pas, je soupçonne un peu qu'à force de dire que ceci et cela sous Mozart, on opte une autre idée, ça changera un peu peut-être.
Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement, par exemple, quand on a vu il y a un ou deux ans la version de La Flûte Enchantée à l'Opéra de Paris, c'était scandaleux. Ils ont fait exprès de retirer toute référence maçonnique, etc. C'était dépouillé. Et d'ailleurs, ça avait été un des premiers coups de gueule en tant que chroniqueur ici, il y a un an.
À leur décharge, ils n'ont pas fait ça qu'avec Mozart.
Non, c'est vrai.
C'est le principe. Surtout, faites exactement le contraire de ce qui est écrit. Ça fait du bien. Mais pour une sorte de la chanter, que là, je suis obligé de prendre la défense quand même. C'est que là, on a carrément un avis de profane. Réellement. Qui voit que le premier degré, je veux dire, c'est quand on dit le fil à plomb, mais lui, il voit vraiment un fil avec un plomb.
Oui, parfait. Bien sûr, de toute façon, voilà. Même dans les illustrations du livret, on le voit. On voit, il y a tous les décors du temple.
Voilà,
hein,
ça, c'est voilà, c'est.
Il y a la marche vers la caverne. Il y a tout. Il y a l'initiation.
Mais bon. quelqu'un qui voit des voies extérieures, il verra une caverne. Ouais. Et on va dans une caverne pour, je sais pas, boire du rhum.
C'est un peu ça. L'acte 1, le dixième morceau, c'est la marche vers la caverne.
Oui, ouais. Mais je pense que on n'imagine même pas quand on est de l'autre côté.
D'ailleurs, enfin, on peut pas se tromper parce que. Moi, j'avais mis d'ailleurs dans un. Il y a un texte qui est on peut pas se tromper. C'est dans l'ère de la sagesse. Il y a dans la flûte enchantée, acte 2, scène 2, celui qui chemine sur cette voie semée d'embûches est purifié par le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il parvient à surmonter la peur de la mort, il s'élèvera de la terre vers la sphère céleste, ayant reçu la lumière.
Voilà.
Il sera à même de se vouer tout entier au mystère d'Isis. Alors quand on sait qu'il y a beaucoup d'égyptologie, on va dire, en faisant néologisme de référence à l'Égypte antique dans la franc-maçonnerie.
Cagliostro déjà.
Oui, donc puisqu'il invente le rite égyptien, Memphis Misraïm d'ailleurs. Donc bon. On va faire une pause musicale. On va écouter justement Heine, la création, la naissance du soleil, puis l'ère de la sagesse, de la flûte enchantée. Et après, nous enchaînerons avec ce qu'on peut appeler l'école française et la franc-maçonnerie, Rameau, Clérambeau, le chevalier saint. Non, ça, on le verra après la révolution. Alors, deux colonnes à la une, toujours sur Radio DTC, et nous allons donc reprendre là où nous avions laissé, à savoir cette histoire de bâtisseurs de cathédrales, mais les musiciens bâtissent des cathédrales de son dans les airs, mais ils poursuivent quand même le travail de leurs prédécesseurs. Alors, on va parler de l'école française, entre guillemets, et de la franc-maçonnerie, puisque là, il y a toute une flopée, je dirais, de musiciens français, francs-maçons, qui sont à la recherche de l'harmonie, puisque, par exemple, le plus connu d'entre eux, Rameau, a d'abord été a été connu sur le tard pour ses opéras et ses œuvres, alors qu'il a été connu, je crois, ça a dû sortir en 1752 ou 54 sur son traité d'harmonie.
Non, c'est plutôt, c'est...
Ou 24.
24 ou 26.
Oui, puisqu'il est mort en 54 ou 56.
64, et oui, le vôtre est devenu...
C'est le 250e.
Cette année.
Donc d'ailleurs, c'est 1756, alors, puisque 250e anniversaire. 1754.
C'est 64.
64.
Et, bon, Rameau, c'est une personne à part. C'est... D'ailleurs, on avait dit à l'époque que c'était l'Orphée moderne, ou ce serait plutôt le Pythagore moderne, parce que c'est devenu une obsession même, la résonance universelle. Et exactement comme Pythagore, c'était l'obsession que le monde est créé par la proportion. Et là, c'est très clair, parce qu'il y a des ouvrages où il met son application. On a le cas du chœur central dans Pygmalion, où le chœur, au milieu du passage, et la façon qu'il chante avec l'orchestre, fait exactement la proportion d'une corde qui vibre.
D'accord. Parce que moi, on m'a toujours dit que son opéra le plus parfait, et je crois que c'est Minkowski qui le disait, c'est Hippolyte et Aricie. C'est le plus caractéristique de Rameau. Moi, je sais pas, hein, c'est pour dire qu'un opéra est plus parfait qu'un autre. C'est pas mon favori.
Dans Rameau, c'est compliqué parce que d'abord, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à jeter. Mais non, j'aurais beaucoup de mal à dire. Ça dépend énormément de ce qu'on va entendre. Hippolyte, c'est très particulier parce que. Il a 50 ans.
Oui.
On considère qu'il est déjà trop vieux. C'est drôle, c'est comme aujourd'hui. C'est un seigneur, comme on dit maintenant.
Et pourtant, il a été vraiment connu à l'âge de 50 ans, sur le
oui,
tard.
Oui, mais c'est très bizarre. En fait, Rameau décide, il écoute un an plus tôt, ou deux ans plus tôt, un an plus tôt, attendez, c'est 32, il pourrait dire 33, donc un an plus tôt, Il va à l'opéra, il entend une œuvre qui est magnifique, par ailleurs, qui est Jephté de Monteclair.
Oui.
Et ça le décide de faire, donner en public sa musique. Il avait essayé avec Voltaire déjà à l'époque de faire Samson. Et justement, tout le tracas qu'il a eu, Monteclair, avec son Jephté, ils ont essuyé quelques années plus tôt Voltaire avec Rameau. Et donc, apparemment, une bonne partie de la musique de son père jamais présentée était réutilisée pour Hippolyte. Bon, ça, c'est des supputations. Ce qui est intéressant, c'est que Hippolyte, c'est une arme de destruction massive. Il faut que ça passe ou ça casse. C'est d'où le côté extrêmement brutal d'Hippolyte. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'œuvres aussi brutales dans l'histoire de la musique. D'ailleurs, il a payé très cher. La chanteuse qui faisait Phèdre, elle a si mal chanté l'air Cruel Mère des Amours qu'il était obligé à la reprise de plus simplement.
L'opéra à l'époque, on y mangeait, on y buvait, ouais. On pouvait apostropher.
Pas en France.
Parce que quand on voit, par exemple, c'est bien rendu dans le film Farinelli, on voit ce qui se passe.
C'est l'immense différence avec l'Italie. En France, c'est un temple sacré.
Ça a toujours été snob, alors, entre guillemets.
C'est exactement. Et d'ailleurs, parenthèse, quand Casanova arrive, justement, un bon Italien arrive, il fait l'erreur monumentale, il s'est fait inviter aux petits appartements de la Pompadour en présentation. Et là, il voit évidemment famille royale, Pompadour, machin, Choiseul, tout le monde est là, tout le monde, il y a comme 600 personnes. Il regarde. Et il n'a pas fait quelque chose de mal, il a simplement éternué. Et il a eu tout le monde qui a retourné pour le regarder. Et lui, qui n'a rien compris, il parle évidemment avec le français comme si rien n'était fou, comme ça, et qui dit « Ah, excusez-moi, j'ai enrhumé parce que ma fenêtre est mal cafoutrée. » Et là, bon, c'était le cafoutré. Évidemment, il y a eu carrément arrêt de la représentation pour je ne sais pas combien de temps, parce que tout le monde est mort derrière. Et lui-même, il ne s'est jamais remis, parce qu'il est habitué de faire ça en Italie. En France, depuis en tout cas l'époque de la Régence, c'est un lieu sacré.
C'est toute la différence. C'est une immense différence. En Italie, l'opéra est né dans les rues de Naples, alors qu'en France, il est né dans les cours royales.
C'est absolument différent. Et d'ailleurs, on voit que ça va très loin. L'opéra, on n'imagine pas maintenant c'est l'importance de l'art. Un ouvrage est présenté. On connaît un peu ce qui s'est passé avec Hernani à l'époque avec Victor Hugo, mais c'est la gnognotte à côté.
Oui, là, c'est la querelle des bouffons.
Là, c'est carrément les gens. Ils sont capables non seulement de huer et siffler toute la salle, mais les gens, ils sont capables de s'entretuer dans les couloirs en duel.
Je crois qu'à l'origine, je crois que l'origine de la querelle, c'est qu'il y en a qui considéraient que l'opéra ne pouvait être chanté en italien et ne pouvait être qu'italien, en fait. Français. Mozart en a souffert, d'ailleurs, quand il a entendu le songe de Scipion, je crois, ou un opéra précédent de Mozart, son évêque a dit c'est trop allemand.
Oui,
pas assez italien.
Oui, bien sûr, mais en France, c'était le seul pays qui a résisté jusqu'à la Révolution. C'est le seul unique pays, même avec les influences, c'était l'unique pays, tous les autres ont cédé. Il n'y a pas eu un seul pays en Europe qui n'a pas cédé.
C'est-à-dire que tout le monde a chanté italien
sauf la France. C'est hallucinant.
Oui, c'était. Mais alors, justement, on parle de Rameau, mais il y en a un qu'on oublie aussi. Il y a Clérambeau. Alors, Clérambeau, c'est qui?
Ah, Clérambeau, c'est voilà le génie qu'on passe à côté et on dit rien. Clérambeau, c'est un homme qui est un peu plus que Rameau, à ce cas-là. L'homme entre deux périodes. Il est quand même un compositeur reconnu sous Louis XIV. Il travaille pour Madame Maintenant et sa naphtaline. Et parce qu'il avait naphtaline quand même autour, c'est quelque chose d'épouvantable.
Oui, c'est vrai que même comment il s'appelait, celui qui a écrit Télémaque, qui était le précepteur,
Fénelon,
merci, même Fénelon disait on s'ennuie à mourir dans la cour de Maintenant.
C'est peu de dire, Il avait, je ne suis pas sûr à 100% pour la source, mais paraît-il, on va dire comme ça, que, vous imaginez comment c'est passé, que les petits montres de Clérambeau passer par la censure de quelqu'un avant qu'il soit présenté à la chapelle de Madame. Donc, une bonne partie de la musique de Clérambeau, qui paraît un peu gnognon maintenant, c'est à cause de ça. Et ça fait qu'il y a quand même la grande différence entre la musique religieuse de Clérambeau et la musique dite profane, qui sont les cantates. Parce que il n'avait pas le droit de faire ceci et cela dans la chapelle. Donc, c'est très cocasse. Qu'une fois la vieille ripopée, comme disait madame la princesse palatine, est morte, nouveau royaume, son petit nodo le présente à sa loge, et le vieux musicien de la Maintenon devient franc-maçon, et il déclare officiellement et solennellement par la sublime cantate Les francs-maçons, dernière œuvre profane d'ailleurs, c'est rigolo. C'est un immense compositeur. Clérambeau, c'est un immense compositeur. Son seul tort de nos jours, c'est qu'il fait une forme que maintenant, à l'époque où on fait les semi-éternelles présentations des opéras de Handel, Vivaldi et d'autres, la forme de la cantate, genre éminemment.
Pourtant, c'est du pré-opéra.
C'est des petits opéras. Mais c'est une forme qui demande à la fois beaucoup de grande attention. C'est pas le grand spectacle. Et surtout, ça demande un côté un peu plus intime.
Parce que quand on écoute effectivement ce qu'on appelle les premiers opéras, celui de Peri, Iphigénie ou Monteverdi, avant, c'est quasiment des opéras.
Absolument. Ouais. Mais c'est le seul tort. Mais pour moi, en tout cas, Clérambeau, absolument génial, tout simplement.
Et il y en a un autre qu'on oublie, c'est Gluck.
Ah, Gluck.
Pourtant, qui est contemporain de Rameau.
Mais Gluck souffre.
Qui est franc-maçon aussi.
Mais Gluck, c'est compliqué aussi parce que il est quelqu'un un peu comme, bah, comme d'autres compositeurs, comme Goldoni, comme Dooney. C'est des gens qui ont fait une carrière X avec succès et tout à coup font un virage. De 100% et il change complètement d'orientation. Et c'est vrai que ça fait toujours très bizarre. Quand Gluck arrive en France, bah, il a déjà fait sa carrière, en fait.
C'est vrai.
Comme Goldoni. Donc ils arrivent parce que justement c'est tellement plus intéressant d'être en France quand même que dans les petites villes de l'Italie ou en Allemagne. Que, bon. Mais c'est vrai que ça, c'est très surprenant que des gens qui ont un certain âge, qui sont déjà connus, reconnus.
Il était déjà franc-maçon en plus en arrivant en France.
Ça je ne sais pas. Mais je pense.
Mais pourquoi alors ce mouvement franc-maçon qui est encore plus imprégné dans la musique en France qu'ailleurs? Ce serait toujours une recherche d'ouverture par rapport à l'étouffement qu'est l'absolutisme.
De toute façon, je pense que c'est un fait. Là, je lisais les annales politiques de Lingué, qui est comme le plus grand, comme dirais-je, avocat, et le premier vrai journaliste de nos jours, l'immense Lingué, que bizarrement, alors qu'il paraît d'être contre les Lumières, il est très souvent beaucoup plus ouvert que certains des petits encyclopédistes, et qui dit justement ça. Il dit, c'est très bizarre qu'en France, on peut avoir des tendances d'ouverture d'esprit, alors que le pays est beaucoup plus oppressif qu'un pays comme l'Angleterre. C'était le paradoxe de l'époque. Parce que, bon, la police...
Ah oui, il y avait les mouches.
Enfin, le Politique Bureau en France, c'était quand même...
Le cabinet noir.
Attention, c'était pas n'importe quoi.
Le Châtelet, c'était pas n'importe quoi.
Et la Bastille, justement, ouais. le fameux mémoire de la Bastille de Lingué, quand il parle de ça, on croit à peine que... Parce que là, c'est plus du roman, c'est du vécu. On est quand même stupéfait.
Puis ça dépend aussi de la qualité du prisonnier.
Oui, oui. Mais justement, lui, qui était très mal vu parce qu'il avait tapé sur tout le monde, il a vu le pire. Et donc, voilà... Donc je pense que c'est normal que les gens essayent de quand même... Je pense que le fait de pouvoir parler sans être espionné et pillé et simplement dire des choses tout simplement entre gens de qualité, et je parle des gens de qualité, je parle des gens, des artistes, des gens d'honnêtes personnes comme au XVIIIe siècle, et qui sont là pour pouvoir parler sans être policés, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
D'ailleurs, c'était un peu le reproche qu'on faisait à Molière d'être un peu trop direct, parce qu'au début, Molière, bah, il marchait main dans la main avec Lully. D'ailleurs, c'est Lully qui était propriétaire des pièces délivrées, c'est pas Molière. C'était le compositeur, donc le bourgeois gentilhomme.
En revanche, la différence avec Lully, Molière l'a payé.
Oui, Molière l'a bien payé. Mais je crois que Lully est venu, quand même, quand Molière est mort, il est venu l'aider, je crois, en fait, juste avant. Il est venu sur sa tombe. Je crois qu'il y a quand même eu des regrets de la part de Lully. Ben, on va faire une petite pause musicale. Justement, on va écouter, je crois, un des airs les plus connus des Indes galantes de Rameau, puis un extrait des motets pour Saint-Sulpice ou la musique pour Saint-Sulpice de Clérambeau. Vous êtes toujours sur Radio DTC et Deux Colonnes à la Une, où nous allons poursuivre notre exploration. Je pense qu'il y aura d'autres émissions plus approfondies sur tel ou tel compositeur, mais notre exploration de la franc-maçonnerie et de la musique. Alors, après cette école française, il y en a une autre qui va surgir, ou qui était frémissante, c'est les musiciens francs-maçons ou la franc-maçonnerie et la musique à l'époque de la Révolution française.
Ah, ça.
Alors, qu'est-ce que ça a donné déjà par rapport à ceux de l'Ancien Régime ? Est-ce qu'il y en a qui ont été balayés par la Révolution ?
Non, parce qu'en fait, ceux qui auraient dû, ils étaient en fait très vieux, ils sont en train de mourir, donc c'est, il a eu ça.
Non, en revanche. Rameau, il est mort 20 ans. Ans avant.
Et comment ça s'appelle? Corrette, il est mort en 92, mais je pense qu'il avait sucré des fraises depuis très longtemps, il avait déjà 90 ans, je crois, presque. Dufly, il est mort, en avril 89,
oui, donc,
n'a pas vu, non. Etc. Et, non,
du moins qu'ils sont morts avant l'année terrible de 93, voilà. C'est bon.
Non, en fait, les personnes qui sont intéressantes à regarder sont, je parle pas des gens comme Grétry qui sont tout à fait innocents. D'un sens politique, ils ont passé à travers parce que personne n'est dérangé parce que il a jamais eu quelle que soit comme tendance, donc voilà, bon, Grétry, bizarrement, pourtant ami de Marie-Antoinette, bizarrement, bon, on sait pas pourquoi, c'est... Ok. Il a eu Méhul, Gossec,
oui.
Que tout à coup, ils ont changé le chapeau tout de suite, ça, pas de problème, tout à coup, ils sont devenus les bouffeurs de rois extraordinaires.
Gossec, c'est injustement méconnu. Ouais.
Immense. Le plus grand symphoniste français, quand même, les symphonies sont magnifiques. Et il a eu en fait celui que nous allons présenter le 14 avril prochain. Il a eu François Giroust. Mmh. François Giroust, qui est le dernier maître de la chapelle de Versailles, en tous les cas avant la Révolution, et qui est terminé quand même, c'est un peu bizarre, il est terminé concierge du château. C'est que ça fait comme un choc, qui était donc le maître de la chapelle et qui était un génie absolument extraordinaire. On sait une petite chose. Quelques années auparavant, il passe le concours pour des grands montées au concert spirituel. Donc là, c'est un vrai concours, c'est pas comme de nos jours, n'est-ce pas?
Non.
Qu'on connaît d'avance qui va gagner.
Oui.
Ça m'échappait.
Ça devient une formation avec voilà. Hervé Niquet, le concert spirituel, voilà. Qui est remarquable, cela voilà. Dit.
Et donc, il présente deux œuvres sous anonymat et il gagne en ex aequo les deux œuvres au premier prix. Bon, je pense que ça dit long quand même sur le génie. Donc il a écrit énormément de grands montées.
C'est un peu comme Émile Ajar.
Oui, c'est intéressant.
François qui a eu deux fois le concours.
Voilà, c'est
C'était Romain Gary, en fait.
C'est quand même intéressant. Oui. Mais en fait, voilà quelqu'un qui va changer complètement parce que il est obligé de changer. Et il va écrire donc des grands hymnes pour l'être suprême, etc., comme Gossec, comme tous les autres, comme Méhul, etc. Et il va écrire pour sa loge, dès les années 80, et des musiques fonctionnelles, dont il nous reste, évidemment, que c'est déjà pas mal, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui est périssent sous les flammes, et pas rituelliques. Le sublime déluge, le déluge, qui est, si je ne me trompe pas, la seule musique pour tenue funèbre française, entièrement, pour trois voix d'hommes et orchestre, et assez incroyable, puisque ça commence à la première page, tambour voilé, déjà, et là on a vraiment le trois coups.
D'accord.
Ça commence comme ça.
D'accord, mais bon, alors Décharge avec Robespierre, ils n'avaient pas tellement le choix aussi, hein.
Bon,
parce
c'est
qu'en
vrai.
Plus, Robespierre persécutait les francs-maçons,
ah, oui,
en 1793. Donc là, je renvoie un ouvrage remarquable de un historien du Grand Orient de France qui agence sur le Grand Orient et enfin où la franc-maçonnerie et la Révolution qu'on trouve chez Dervy, mais bon, c'est il y a des extraits de lettres dont les dernières lettres de la dernière loge puisqu'ils sont persécutés et c'est assez poignant. Donc
c'est intéressant.
Oui, ils n'avaient pas tellement le choix.
Intéressant parce qu'à chaque fois qu'il a eu quelques petits problèmes politiques dans un pays, depuis l'époque déjà, on tape dessus, hein, tout de suite. C'est quand même, c'est tellement caractéristique, c'est affligeant et caractéristique.
Oui, bah d'ailleurs, l'ambiance est assez bien décrite par un frère que nous avons eu le plaisir de recevoir ici sur le règne des Illuminati, Raven. Il le décrit puisque concomitamment, ça se passe aujourd'hui. Avec son héros, le commissaire Marcas, mais aussi il décrit tout ce qui se passe sous la Révolution. On dit d'ailleurs que Robespierre est tombé à la suite d'un complot entre frères.
Oh, c'est un bon complot celui-là.
Ouais.
Parce que, il faut dire que Robespierre, c'était pas évident.
Alors qu'est-ce que viennent faire justement des musiciens Rouget de Lisle, par exemple, qui est franc-maçon, qui est l'auteur de la Marseillaise. Alors la Marseillaise, hymne franc-maçon. Le Chevalier Saint-Georges aussi, qui est à cette époque-là.
L'immense.
Oui, l'immense. Le Mozart noir, d'ailleurs, il y a un film avec toute sa musique qui est remarquable.
Voilà, c'est Saint-Georges intéressant. Bon, à part, on parle de la musique, mais intéressant. Sa vie témoigne exactement tous les transformations de la société française à la fin du XVIIIe siècle. Je pense que tu, justement, qui dis Linguier, et qui le voit un peu plus loin, qui regarde tout ça effaré quand même, on l'a dans la vie de Saint-Georges. Saint-Georges, n'est-ce pas, c'est un bâtard, fort bien. D'une esclave, déjà tout est dit.
Un peu comme Jefferson à Paris.
Et, voilà, n'est-ce pas, et d'un noble. Que ce noble-là était réellement noble, puisqu'il a reconnu l'enfant. Il n'a seulement reconnu, mais il a un oubli. Déjà, on est comme dans une société comme très bizarre, comme ça.
Oui, bah, voilà. C'est un peu le cas avec les Dumas aussi.
C'est comme Dumas, n'est-ce pas?
Oui.
Parce qu'on oublie comme que Dumas, hein, bon, c'était comme Saint-Georges.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et là, c'est extraordinaire. Le gamin arrive et il a deux tâches. Il n'a pas la même couleur que les autres et il est bâtard. Et malgré tout, il réussit et en musique et en escrime et il est apprécié par la famille royale. Voilà, tout le paradoxe de la société à cette époque-là.
Il y a une très belle biographie d'ailleurs qui a été publiée chez Actes Sud, où je le rappelle, je crois à cette époque-là, le degré de maître n'existait pas, puisqu'ils disent que le chevalier Saint-Georges est resté par exemple 20 ans en compagnon.
Ouais, ouais. C'est... Alain Guédé a beaucoup œuvré pour la réhabilitation de Saint-Georges, c'était fort bien. Et parce que la musique est merveilleuse et le personnage extraordinaire. Mais il faut imaginer aussi le côté obscur de l'affaire cette affaire-là, c'est que Louis XVI, que c'est un homme remarquable, le nomme directeur de l'Académie royale.
Oui,
aussitôt, une formidable actrice, Madame Arnoux, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Elle arrive, elle fait la scène ridicule, honteuse, mais c'est de deux à la fois. Elle arrive et se jette devant le monarque en pleurant. À mon avis, il avait pris de l'extrait d'oignon dans les yeux, en disant que son honneur d'artiste de femme était bafoué d'avoir un mulâtre à la tête de l'Académie royale. Voilà, c'était le côté obscur de la même société, qui est épouvantable. Et évidemment, hélas, Louis XVI n'a pas osé.
Ça dit, il y a encore des traces aujourd'hui.
Ah ben ça,
même nous, maçons, on lutte encore pour ça. Il y a un anti-maçonnisme aussi qui revient. On arrive un peu à des périodes obscures. Bon. Et alors, comment se déroule la carrière du chevalier Saint-Georges après ça?
Je pense que, si je ne me trompe pas, il est reparti à l'armée. Simplement. De toute façon, il faut savoir qu'une fois que la révolution est arrivée, et là, on sent jusqu'à nos jours. Surtout de nos jours, précisément, actuellement, qu'on voit la crise de la culture, l'horreur que nous vivons avec toutes les fermetures des institutions, qui ont fait ça allègrement et avec de bonne humeur. On ferme tout. Tout sera fermé. Les meilleures maîtrises en Europe ne sont pas anglaises à l'époque, sont françaises. Une fois qu'elles sont fermées, on ne s'est plus jamais remis.
Ça dit, il faut rendre grâce à des gens comme Gardiner et Christie d'avoir ressuscité Gardiner Rameau à travers les Boréades à Aix-en-Provence et Christie à travers Attis de Lully, d'ailleurs qui a été représenté l'an dernier, ou enfin cette année, pour le 20e anniversaire.
Non, c'était
l'année, l'année dernière, pour le 20e anniversaire.
Et moi, je l'ai présenté en 2010 à Athènes.
Oui.
C'était un de rêve de faire.
Moi, mais, c'est le premier, ce sont les deux premiers disques de baroque français que j'ai entendus.
Moi aussi. mais c'est intéressant, c'est que, par exemple, pour les maîtrises, et, la mort était tellement parfaite que, bah, simplement, on n'a plus de maîtrise en France. Simplement, dans le sens de maîtrise, avec une scolarité exactement comme on a en Angleterre.
Ce qu'on pourrait appeler des Schola Cantorum.
Voilà, c'est ça, on n'a plus. Ils ont tué l'Académie Royale de Musique. Voilà, donc, il n'avait pas grand-chose à faire. Les concerts dits privés, il n'avait plus de place, puisque c'était les grands bourgeois et les nobles qui entretenaient ça. Je pense qu'il a eu comme 10 ans assez terribles, à tous les points de vue.
Oh bah, je pense que c'est pas un hasard si ça disparaît comme la franc-maçonnerie et d'autres à cette époque-là. Mais alors comment finalement le chant des volontaires marseillais qui est devenu l'hymne national, la Marseillaise, comment c'est un franc-maçon quand même qui l'a créé.
Mais ça jouait beaucoup entre ça et le chant de départ quand même. Hein.
Oui oui.
Ça, je ne me rappelle pas le qui avait écrit l'article.
Cela dit, les a États-Unis, à une voix près, auraient parlé français et pas anglais.
Oui, voilà. Hein, puisque c'est... Dommage.
Ça aurait été plus simple pour beaucoup de
gens. Ah oui.
Donc, on va faire une petite pause musicale en écoutant justement la Marseillaise interprétée par Roberto Alagnas. Ce n'est pas ma version favorite, mais je n'ai pas eu le temps de la trouver. Et juste un extrait de la symphonie en D majeur du Chevalier de Saint-Georges, justement.
Soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, vos armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez. Yeah.
deux colonnes à la une sur Radio DTC, la franc-maçonnerie et la musique. Alors on va attaquer maintenant le 19e siècle et la musique d'aujourd'hui. Le 19e siècle, il y a beaucoup de compositeurs qui font carrément des chansons. Mais alors j'ai l'impression qu'il y a plus des chansons à boire, des chansons qui sont composées pour, je dirais, la gape.
Oui, c'est...
Dans, au 19e siècle.
Bah, n'est-ce pas, les agapes sont des liens les plus oui, forts.
Bien sûr. Bon, non, il y a Eros quand même. Mais... Oui. Mais c'est vrai que l'agapé est plus forte que Philia. Bon, je m'adresse en plus à quelqu'un qui maîtrise bien la langue grecque, je crois.
Oh, un peu.
Voilà. Mais ce 19e siècle, qui est pourtant celui de la Troisième République, qu'on présente comme l'âge d'or de la franc-maçonnerie française, les compositeurs maçonniques, il n'y en a pas tellement de connus, parce que Berlioz ne l'est pas, Ravel ne l'est pas.
Il y a un que je pense qui mérite l'attention, c'est le Derrien Rejeton des Tascains. Hmm. Tascains, on connaît parce que c'était comme...
Il n'y a pas Magnard aussi
Je crois. Mais Tascains, c'est intéressant parce que c'est de la famille des facteurs de Clavecin.
D'accord. Il ne s'est pas planté, Tascains, du planté.
Non. Non, et c'est intéressant parce qu'il a écrit d'une façon très, très méthodique de la musique maçonnique. Vraiment, il a fait vraiment pour tout usage possible avec diverses formes. C'est très intéressant. Mais après, c'est vrai que ça se permet. Je pense que c'est parce que, comme beaucoup de choses, c'est drôle de dire ça, c'est pas pour parler au majestiste. Ou un esprit de justice, mais c'est que une fois que la pression est tombée, bah l'intérêt de faire des œuvres, donc ça devient moins intéressant.
Mais il faut dire que c'est un peu moins bien quand même. Hein,
bah
parce
ça
que,
oui, bon, c'est vrai aussi, c'est vrai.
J'ai écouté bon sur un DVD dont je donnerai les références tout à l'heure sur les francs-maçons et la musique qui était passé sur Arte. La mise en musique de poèmes de Goethe qu'on voit dans un extrait de ce DVD, bon, c'est pas terrible. Hein. Pourtant, je suis pas contre la musique répétitive. Hein. J'aime bien Steve Reich, j'aime bien la musique d'aujourd'hui. Mm. Et je suis content de voir que d'ailleurs la musique française, avec du Sapin ou d'autres, est en train d'être reconnue à nouveau. Mais il n'y a pas de... Enfin, c'est pas génial, c'est un peu même convenu.
C'est tout à fait notre époque, n'est-ce pas?
Oui, je sais. Il y a peut-être moins d'urgence. En revanche, il y a, on fera, je pense, une émission là-dessus un jour, il y a d'autres terrains qui sont très riches en musique maçonnique, c'est le jazz, par exemple. Où là, on a toute une flopée de... Bon, les deux plus connus sont Duke Ellington et Louis Armstrong. Il y a aussi, maintenant, on sait que Phil Collins l'a revendiqué, qu'il était maçon... Il y en a d'autres, bon, mais c'est surtout la musique d'aujourd'hui à travers le rap. On avait fait une émission là-dessus, on avait entendu notamment Usher ou Stromae dans son titre Bâtard qui était anti-maçon, puisqu'il y a un anti-maçonnisme aujourd'hui. On va peut-être d'ailleurs avoir de la musique maçonnique de meilleure qualité d'ailleurs. Et c'est peut-être pas aussi un hasard si le baroque, je dirais, maçonnique, en prenant au sens large ceux qui étaient proches ou ceux qui l'étaient, revient, le baroque français revient, et dedans il y a beaucoup de proches ou de francs-maçons. Donc c'est peut-être pas un hasard aussi, parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleure qualité que cette musique-là, sans être rétrograde ou rien.
Je pense que ce niveau-là, on ne peut pas parler de rétrograde ou pas, c'est factuel ou pas.
Oui.
C'est vrai que... Je me rappelle une scène très intéressante de ça. C'est une anecdote pour... Je sais pas pour éviter le dire directement, mais c'est intéressant. Je me rappelle quand nous travaillions avec William Christie, il y a longtemps, nous étions jeunes, les années 80, que j'étais son assistant...
Dans sa magnifique propriété.
Non, c'était à rue Madrid à l'époque, oui. que le conservatoire supérieur était à rue Madrid. Et nous faisions ce que j'aime beaucoup, justement, les cantates de Monteclair. Et je me rappelle très bien la cantate. C'était la cantate Heureux habitants de retraite du deuxième livre, pour autre contre. Et donc, il y a eu un des chanteurs qui commence à éructer contre la musique de Monteclair, en disant que c'était carrément de la merde et tout. Et alors là, William a une très bonne réponse, que je pense qu'on peut le dire aussi pour ce... que tu viens de dire, tout simplement dit, bon, c'est la merde, très bien. Est-ce que tu peux nous faire une la semaine prochaine meilleure que celle que tu viens entendre là? Et le débat était clos.
Oui, parce qu'il y a aussi un auteur dont voilà. On a oublié, c'est Mondeville.
Voilà, Mondeville. Ah, le chouchou à Popadour.
Oui.
Et que je me demande toujours s'il était franc-maçon ou pas.
C'est quoi son opéra le plus connu? C'est les fêtes de Patmos ou un truc comme ça?
Non, les fêtes de Patmos. En fait, c'est ouais. le deux plus connus, c'est ce qui a provoqué la chute de Buffon, c'est Titon et l'Aurore. Et puis, là, il y a le sublime carnaval de Parnasse.
Oui, parce que moi, les fêtes de Patmos, je les cherchais. Je les trouvais à Londres d'occasion. Je crois que c'est Rousset.
C'est Christophe qui a fait, Christophe, que je connais depuis longtemps. Et j'avais fait le troisième volet qui c'est en acte séparé, Amour et Psyché, début des années 90. Non, Mondeville, c'est absolument génial. Mais je me suis toujours posé la question s'il était.
Oui, justement. Toujours parce que. Je me suis aperçu qu'on l'a oublié alors que c'est un grand compositeur.
Ah oui, c'est un immense compositeur et surtout c'est le compositeur que, une fois que le violoniste sort du concert, ils vont se saouler la gueule parce que c'est terrifiant. C'est le compositeur qui a le plus œuvré pour l'éclat de l'orchestre et du violon. C'est extraordinaire, Mondeville.
Bon, Yakovos Papas, je te remercie. On va arrêter là. Je pense qu'on se reverra pour d'autres émissions bien plus approfondies. On va écouter justement Duke Ellington et Louis Armstrong sur une chanson de Duke Ellington. Ça tombe bien, ils la chantent tous les deux. Ce sont les Master Sessions et je recommande à tout le monde d'acheter, de se procurer des disques comme ceux que nous avons tous écoutés. C'est I'm Beginning to See the Light. Je commence à voir la lumière. Et puis après, comme c'est dans les fêtes de Noël, je vous citerai une bibliographie à propos de l'émission d'aujourd'hui et à propos de certains livres. Voilà.
Never went back for fireflies. Now that the stars in your eyes are beginning to see the light, I never went in for afterglow. Candlelight on the mistletoe. Now that you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Yes, used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came. Cause the spark that's a full-on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I begin to do see the light. Yes, I never cared much for moonlit skies. Never went back to fireflies. But now that the stars are in your eyes, I begin it. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But not when you turn the lamp down, no, I'm beginning. Used to ramble to bark, shadow boxing in the dark. Then you came and caused that spark, the full on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your chops are burning mine, I'm beginning. Yeah.
Deux colonnes à la une radio, sur Radio DTC. Donc, pour terminer, nous allons vous proposer une petite bibliographie qui tourne autour de la franc-maçonnerie et la musique. Alors, il y a l'ouvrage fondamental, vous pouvez le trouver parce que je crois qu'il est épuisé, c'est de Gérard Geffen, G-E-F-E-N, Les musiciens et la franc-maçonnerie, dans la collection Les chemins de la musique chez Fayard. Vous avez des ouvrages remarquables comme Le langage de la musique, est-ce qu'il existe un langage de la musique, etc. dans cette collection. Ce sont... Vous avez un ouvrage de Raphaël Imbert que nous inviterons un jour, Jazz suprême, initié, mystique et prophète, philosophie, dans la collection Philosophie imaginaire aux éditions de l'Éclat. Paul le gardien, symbolisme et franc-maçonnerie dans la tétralogie wagnérienne. C'est intéressant puisqu'on se pose beaucoup de questions sur Wagner, puisque son beau-père, Liszt, était franc-maçon. Roger Cotte, La musique maçonnique et ses musiciens, aux éditions du Borrego. Alors, il y a eu un colloque qui a été publié du Grand Orient de France sur Mozart, La musique et la franc-maçonnerie au siècle des Lumières, qui a eu lieu le 9 décembre 2006. Tu y étais ? Il y a l'ouvrage de Philippe Autexier, La colonne d'harmonie, histoire, théorie, pratique, chez Détrade. Il y a tous les ouvrages de Bernard Muracciol et dont Champ maçonnique des hauts grades, le dernier ou l'avant-dernier, où il y a un livre et un CD aux éditions Vega. Chez Fayard, bien entendu, tous les musiciens dont nous avons parlé, Mozart, Hind, mais aussi des musiciens qui étaient francs-maçons comme Sibelius, qu'on n'a pas eu le temps de citer. Vous pouvez avoir leur biographie dans cette collection chez Fayard sur les musiciens. Et justement, l'été dernier, est enfin sorti, il était attendu, le Rameau. Je vous invite également, bien sûr, vous avez beaucoup d'articles sur la franc-maçonnerie et la musique. Il y a eu un numéro spécial de la chaîne d'Union en 2006. Là-dessus, avec notamment un écrit sur Hein qui est remarquable, vous avez les cahiers de Villard de Haunecourt, on parle de musique et de spiritualité, et bien sûr, point de vue initiatique aussi, où vous verrez, je pense que la flûte enchantée, ça doit être... c'est bien écrit, hein. Il y a des interprétations, c'est pas du Christian Jacques, mais bon, c'est un peu quand même le marronnier de la franc-maçonnerie, de la musique, mais il y a beaucoup d'analyse. Et comme sont les fêtes de Noël, on va vous rappeler les livres dont on parle dans De colonne à la une. Régularité maçonnique d'Alain Bernheim aux éditions Télétès. Madame Iramabi, La concierge de la rue des Trois Frères, roman de Philippe Benabouche et Dervy qui est très bien, c'est un de nos chroniqueurs. Ce n'est pas pour ça, c'est très bien. Et je vous rappelle qu'il a écrit La franc-maçonnerie pour les nuls, qui est un ouvrage très bien pour faire découvrir la franc-maçonnerie, très didactique. La tradition des francs-maçons, histoire et transmission initiatique de Dominique Jardin aux éditions Dervy. Les couleurs de la franc-maçonnerie, les ateliers symboliques, Pierre Pellet le Croisat aux éditions Détrade. Curiosité maçonnique, énigme, intrigue, secret dans les archives des loges de Pierre Mollier, qui est publié chez Jean-Cyril Godefroy, qui est un très bon ouvrage, très intéressant, qui vient de sortir. L'art de la mémoire et la formation du symbolisme maçonnique, de Charles B. Jameux, un des derniers surréalistes vivants, aux éditions Dervy, qui a fait un travail remarquable, qui est vraiment une synthèse de plusieurs années de recherche. Nous l'avions reçu à l'occasion du Salon du Livre Maçonnique du premier, qui s'était tenu début novembre. La foi d'un franc-maçon de Richard Dupuis, qui est une réédition aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, collection initiatique. De l'Écosse à l'écossisme, le tome 2. 1743-1761, floraison des grades écossais de Louis Trébuchet avec une préface de Claude Colin aux éditions Ubique. Le premier tome est aussi très bien. Nous avions reçu d'ailleurs pour l'émission sur le rite écossais ancien et accepté Louis Trébuchet. La commune de Paris, mars-mai 1871, la franc-maçonnerie déchirée d'André Combes aux éditions Dervy. L'unique et l'initié, franc-maçonnerie-anarchisme de Christophe Biteau aux éditions Théolib. L'Europe sous l'acacia, dont le tome 2 vient de sortir, Diviver Messeca, publié aux éditions Dervy. Et enfin, Le règne des Illuminati de Jacques Raven et Eric Giacometti, qui est leur dernier opus. Je vous invite également, vous avez un DVD sur les francs-maçons et la musique qui avait été diffusé sur Arte, que vous pouvez trouver donc en DVD ou sur www.conforme.edition.com. Vous avez, pour un prix qui est assez modique, puisque pour 60 euros, vous avez tous les opéras de Rameau, 27 CD, Republié par Warner Classics, qui a repris, à mon avis, Erato, label dont nous regrettons la disparition. Et en me promenant, j'ai trouvé un opus maçonnique qui vient de sortir, enfin alchimique, qui vient de sortir, puisque le rite ancien est accepté, est un rite alchimique pour certains, c'est Solve et Coagula, aux éditions Les Chants de la Terre ou Terre Musique, avec Guido Morini à cordonnée. Donc, qui est très intéressant, puisqu'il vous fait, il décrit tout le travail de l'œuvre musicalement. Et enfin, je vous invite, parce que c'est là où je les ai, les ouvertes. Alors, il y a des extraits de Rameau par Musique Éternée Théodore Kourentzis, qui a fait, aux éditions Sony, d'ailleurs chez Sony, qui a sorti de Mozart, Les Noces de Figaro et Così fan tutte. Vous avez le disque Swan. Everything Changes, Nothing is Lost. Je crois que c'est une bonne farce. Et je vous invite, parce qu'il n'y a pas de miracle, je les avais trouvés, moi, sur iTunes, toutes les compositions de notre invité et de son ensemble. Donc,
tout.
Oui, donc l'ensemble.
Almazis.
Et qui donc va faire une représentation.
Le 14 avril, donc prochain.
Sur une péniche. Alors, dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de place.
Il reste plus de place.
Et je vais me dépêcher, moi, d'ailleurs.
Oui, parce que c'est pas peu de dire, sans place, en tout cas, c'est.
Oui.
Et
je pense qu'il y aura. Il y aura plusieurs représentations, je pense.
Mais donc, il y aura une chose qu'on a parlé tout à l'heure, donc il y a le Clérimbault, le franc-maçon. Il aura le déluge de Girouste, qu'on n'a pas entendu, je crois, depuis les années 60.
Il y a Nodon, je sais.
Et Nodo, il y a le Nodo, la marche. Alors la marche, c'est intéressant parce que la marche pour les francs-maçons, en version instrumentale et version chantée, on aura les deux. Mmh. Et il aura aussi la, je crois que première mondiale, je suis très content à ce niveau-là, Zoroastre, première version jamais présentée, la vraie version maçonnique, pas la seconde.
Bah, je suis curieux de l'entendre parce que j'ai entendu la version de Christie, j'ai entendu la version de Rousset.
Mais c'est ces musiques-là qu'on va faire, elles n'existaient pas dans cette disque-là.
D'accord, sauf Gustave Leonhard.
Non, ils ont fait tous la seconde version.
D'accord, ils ont tous fait la seconde version. Donc le 14 avril, et on se retrouvera sur Radio DTC pour Deux Colonnes à la Une. Alors comme en maçonnerie, une fois qu'on a fini les travaux, on se rend à la GAP. Je pense que cette musique de Courbois Bacchus, Je te rends les armes, donc dont tu es l'un des interprètes. Donc n'hésitez pas à aller sur iTunes. Moi, je les avais trouvés là-dessus. Quel est votre éditeur?
Actuellement, Courbois, c'est chez Arion. Comme Madin et
oui, il a été
Corval.
Primé en plus. Il a été diapasonné, téléramisé. Oui. Il a eu beaucoup de disques du mois. Ouais.
Voilà. Et là, le dernier, c'est d'ailleurs que c'est un frère, qu'on n'a pas parlé du tout, d'ailleurs pas le temps, Philidor, le grand.
Oui.
On vient sortir un opéra bouffon pour ceux qui aiment rire. Blaise Le Savetier sur un conte,
oui.
de fameux conte très salace de La Fontaine.
Alors attention, parce que il est sous l'ancienne appellation.
Lequel?
Blaise Le Savetier.
Quelle ancienne?
Sur iTunes.
Ah bon?
Oui. J'ai tapé les deux et en fait, il y en a un avec un Z et l'autre avec un S.
Bon, ça, ils m'ont fait le coup, qui est très bien.
Voilà.
Je suis ravi d'apprendre ça. Non, mais les gens font la différence, en fait. Oui, bon, je sais. Mais Arion n'a jamais voulu changer le nouveau nom. C'est si peu, un S et un Z.
Oui. Donc, on va terminer sur un Courbois, Bacchus, Je te rends les armes, puisque la GAP est toujours un synonyme de tout sauf régime. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Bacchus, je te rends les armes. Repos sur moi.
Et après, je te mets un peu de rap anti-latin.
Quelle sera plus de charme que celui des buveurs? Bacchus, je te rends les armes. Repos sur moi. Tes faveurs, quelle sera plus de charme
que celui des pêveurs, les soucis et les peines, les troubles voilent les irs. Toi seul, tu les enchaînes. Toi seul, tu les enchaînes en remplissant leurs désirs. Toi seul, tu les enchaînes en remplissant leurs désirs. Les soucis et les peines ne troublent point leur plaisir. Toi seul, tu les enchaînes. Toi seul, tu les enchaînes en remplissant leurs désirs. Toi seul, tu les enchaînes en remplissant leurs désirs. Tu les enchaînes en remplissant leurs.
Quant à moi, on va peut-être prendre 5 minutes pour regarder un truc, vite fait.
Deux colonnes à la une.
Il faut que je fasse le montage pour le coup.
Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio DTC.